effectivement. Alors le chiffre 6 comme le sixième rapport du GIEC dont on a publié aujourd'hui, dont on connaît depuis aujourd'hui le troisième volet, parce que ces rapports sont en volet, troisième volet consacré aux solutions. Mais Céline Guivard, vous faites partie des experts qui ont travaillé à ce rapport. Effectivement, ce qu'a dit Elisabeth, ce qui nous frappe dans ce mot, dans ce rapport, pardon, c'est ce mot atténuation. Quand on veut atténuer quelque chose, c'est que ce quelque chose, en l'occurrence le réchauffement, est déjà là. Comment dois-je prendre cette arrivée de ce mot atténuation?
En fait, c'est peut-être un jargon qu'on utilise. Que veut dire atténuation? Ça veut dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont l'accumulation est la cause du changement climatique d'origine anthropique qu'on observe.
Et créé par l'homme, d'origine anthropique créée par l'homme.
Créé par l'homme, tout à fait. Et donc, réduire les émissions pour limiter l'ampleur et la vitesse du phénomène et en éviter les effets les plus graves.
Concrètement, il faudrait les réduire de 45% d'ici 2030 pour qu'on reste sous le seuil du plus 1,5%, 1,5 degré, pardon, de réchauffement,
c'est ça ? Alors en fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est que quel que soit l'objectif de stabilisation de la température, 1,5 degré ou 2 degrés, il faut amener à zéro émission nette de CO2 les émissions mondiales. C'est ça, en fait, le point de mire des actions qu'on doit avoir, zéro émission nette de CO2. Et plus on l'atteint tôt, plus on stabilise à un niveau bas et plus on évite des effets de plus en plus graves et de plus en plus complexes à gérer du changement climatique.
Vous n'aimez pas le mot atténuation, Philippe Biwix?
Vous
trouvez que c'est une litote, justement, enfin, que c'est...
Non, alors dire qu'il y a une dizaine d'années, on était les écologistes et les associations ne voulaient pas entendre parler d'adaptation, parce qu'il y avait la lutte contre le changement climatique, et puis il y avait l'adaptation. Et finalement,
l'adaptation, c'est quand on avait perdu.
L'adaptation, c'est quand le coût est parti. Il se trouve que le coût est parti, parce que le climat de 2030-2040, il est fait par les émissions qu'on a déjà réalisées. Et si on se projetait même plus loin que 2050 ou 2100, ou presque fait, je te vois hocher de la tête, mais il y a des choses sur la question, par exemple, de l'augmentation du niveau de la mer. Si on se projetait même plus loin que 2100, il y a des choses qui sont effectivement de toute manière déjà parties. Donc, finalement, on s'est dit, l'adaptation, elle est nécessaire. Donc, il faut agir sur les deux volets, adaptation et atténuation. Alors, on peut décider atténuation, lutte, on peut choisir effectivement le jargon, mais l'idée, c'est de dire que chaque tonne compte, puisqu'en fait, on est dans des processus qui sont à la fois un peu linéaires, dans le sens où plus on émet, plus ça va mal se passer, mais aussi non linéaires, c'est-à-dire que chaque tonne peut être celle qui fait, quelque part, diverger le climat, en exagérant un peu, donc chaque tonne compte.
Philippe Zawatier, est-ce que nous sommes en retard pour clore ce débat sur ce mot atténuation? Vous représentez ce monde de la finance verte, des gens qui ont le pouvoir, la décision, et qui se sont mis à l'impératif environnemental. Est-ce qu'ils s'y sont mis? Est-ce que vous vous êtes mis trop tard?
Comme tout le monde, oui. Je ne sais pas si on a le pouvoir ou plus de pouvoir que les autres, mais on a effectivement, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir, clairement, de l'investissement et de la finance. On va sans doute y revenir, mais l'investissement est quelque chose d'essentiel pour... Que ce soit pour la technologie ou pour la sobriété, de toute façon, il faut investir. Et oui, on s'y est mis trop tard. Et d'ailleurs, pour une certaine partie, on ne s'y est pas encore mis.
Alors, des solutions sont évoquées, sont proposées, toute une palette de solutions par le GIEC, par ce rapport, des solutions qui évoquent donc la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de les capter, de les séquestrer, la séquestration du carbone. Il y a aussi des affaires de stockage, on peut penser aussi à la fertilisation des océans. Enfin, il y a toute une palette de solutions qui font appel à de la technologie très avancée. On ne sortira pas de cette problématique sans une technologie de plus en plus lourde.
Alors en fait, je pense qu'il y a une première chose qui est importante à voir, c'est que ce rapport, c'est la somme de l'évaluation de l'état des connaissances scientifiques sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a eu une évaluation de plus de 18 000 articles scientifiques, c'est vraiment une somme. Par ailleurs, le GIEC ne fait pas de recommandations, c'est une évaluation de la palette des solutions. Et ce qui est important à retenir, c'est que dans cette palette des solutions, effectivement, elles sont multiples. Certaines passent par l'adoption de technologies, d'autres passent par des transformations des modes de consommation et de production de nos organisations sociales. Et dans chacun des secteurs, finalement, il y a des leviers qui sont de sobriété, de réduction de la demande, de transformation de la façon dont on se chauffe, dont on se déplace, etc.
Voilà. D'accord. Mais la technologie, Philippe Biwix, certains parlent de techno-optimisme par rapport à ces solutions technologiques, séquestration du carbone, stockage du carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? En plein délire par rapport à ces solutions technologiques?
Alors, non, pas complètement. En fait, on a une palette qui est assez large et le niveau de délire est plus ou moins grand selon l'endroit où on tape dans la palette.
Du niveau de faisabilité.
Voilà, exactement, c'est ça en fait la question. C'est est-ce qu'on est rattrapé par la patrouille, soit parce que ça va consommer trop de ressources. Alors ça, c'est par exemple la question des énergies renouvelables et ou de l'électrification des transports, et en particulier des voitures, évidemment, qui sont l'essentiel. Mais il y a aussi les bateaux, il y a aussi les avions, il y a aussi les bus, etc. Donc là, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a assez de ressources à extraire? Alors on va consommer plus de cuivre, on va consommer plus de lithium, peut-être plus de batteries, plus de nickel.
On appelle les métaux rares,
des choses qu'on a. Alors ils sont pas forcément rares, mais disons qu'en tout cas, par exemple, l'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport l'année dernière, mais la Banque mondiale a fait la même chose, l'OCDE aussi, et tout le monde reconnaît qu'il va y avoir une extraction nécessaire absolument incroyable pour réussir à déployer
énergivore elle-même,
qui est elle-même un peu énergivore, et puis qui a aussi d'autres conséquences que la question juste d'énergie ou de climat. C'est-à-dire qu'il y a aussi des conséquences sur la biodiversité, etc. Donc ça, c'est la partie, je dirais, presque la plus simple. Après, il y a la question de l'hydrogène. Alors là, l'hydrogène, lui, il est pratique pour faire du stockage, bien sûr, ou pour emmener dans des véhicules de type avion ou camion ou bus. Alors là, l'hydrogène, quand même, le problème, il faut juste se rendre compte que quand vous passez par le vecteur hydrogène, vous perdez 3/4 de l'énergie électrique qu'il a fallu, parce qu'il faut électrolyser et puis ensuite repasser.
Même pour ce qu'on appelle l'hydrogène vert?
Ah ben, pour tout hydrogène. Alors l'hydrogène vert, c'est que votre électron au départ, il va être issu d'une énergie renouvelable, et puis s'il est gris, ça viendra d'ailleurs. Mais donc par rapport à passer par une batterie et dans une voiture électrique, par exemple la voiture à hydrogène, clairement c'est une espèce d'énorme erreur, parce que vous perdez, faut mettre 3 fois plus ou 4 fois plus d'éoliennes.
Enfin oui, pour un avion, un bateau, on n'a pas d'autre solution que ça. Hein,
il faut contenir l'hydrogène sur ça. Voilà.
D'où et faire puis, les bons choix au bon endroit. Oui.
Ensuite, il y a la question de la capture du carbone.
Alors oui, c'est
plus un problème de déploiement. Alors c'est vrai que pour des sites comme le ciment, par exemple, on n'a pas le choix. Le ciment émet du CO2, quoi qu'il arrive, même si l'énergie était gratuite, parce qu'il faut enlever un CO2 du carbonate de calcium, qui est le calcaire, qui est la base du ciment. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de récupérer ça à la sortie. Mais là, ça consomme de l'énergie, il faut stocker, il faut transporter, il faut trouver des réservoirs.
Pardonnez-moi, Philippe Zawati, est-ce que des gens investissent actuellement de manière crédible dans les technologies de captation du carbone, qu'il s'agisse de planter des forêts, qu'il s'agisse de broyer des roches pour les répandre sur les océans? Est-ce que tout ceci existe? Est-ce que vous pouvez décrire vers quoi on va actuellement?
Il y a des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Je pense déjà la première chose à bien comprendre, c'est ça. Quand on parle d'innovation, on parle de technologie. Il y a des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Et la problématique qu'on a, c'est comment est-ce qu'on les déploie suffisamment à la bonne échelle. Et puis, il y a les technologies qui n'existent pas. Et
donc, alors, là, qu'est-ce qui existe?
Sur ce qui existe, ben, par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture, par exemple. Vous avez énormément de technologies aujourd'hui qui vont révolutionner l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer complètement la façon dont on va s'alimenter. Il faut évidemment changer complètement la façon dont on va s'alimenter, par exemple, manger moins de bœuf, changer nos protéines.
Pour moins d'émissions de méthane.
Mais les technologies qui sont disponibles pour l'agriculture aujourd'hui permettent d'être plus durables. Par exemple, la robotique, par exemple, la sélection des semences, par exemple, le pilotage de tout ce qui est utilisation de l'eau. Ça permet d'être beaucoup plus résilient aussi, avec du contrôle de la technologie. Ça permet aussi d'éviter le gaspillage. Donc vous avez énormément de technologies, de produire des protéines à base d'insectes. Donc la technologie peut aider aussi à changer les usages et à améliorer la production. Vous voyez, la combinaison des deux, il ne faut pas l'opposer en fait.
Céline Guivarche, on désespère d'avoir une réponse sur les captations de carbone.
Pardon.
Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes une des experts du rapport du GIEC, quelles sont les solutions de captation de carbone qui actuellement apparaissent crédibles aux yeux de la communauté scientifique?
Et suffisante à l'échelle planétaire.
Écoutez, je ne vais pas vous faire plaisir parce que je ne vais pas vous répondre sur cette question-là. Je voudrais vous répondre
sur... Je désespère vraiment.
Vous désespérez vraiment, mais laissez-moi vous répondre.
Allez-y.
En fait, ce que montre le rapport, c'est qu'il existe des options disponibles aujourd'hui pour réduire très significativement les émissions dans tous les secteurs. Ces options, on va prendre l'exemple des transports. Ça peut être réduire la demande de services de transport, réfléchir aux chaînes de production.
Je comprends pas ce que ça veut dire. Réduire la demande de services de transport, ça veut dire moins de voitures, moins d'engins, moins d'automobiles.
Par exemple, sur le transport de marchandises, vous pouvez repenser les chaînes de production pour qu'il y ait moins besoin de transporter des marchandises. Pour le transport de personnes, vous pouvez le télétravail, par exemple, ou éviter certaines réunions à l'autre bout du monde et passer par des appels.
Pour tous les métiers, tous les métiers.
Ce qui ne vaut pas pour tous les métiers. Mais
ça ne vaut que pour le tertiaire.
Bien sûr, mais il y a un potentiel qui est là. Réfléchir à l'urbanisme pour que les distances pour accéder à la santé, à l'éducation, etc., permet de réduire
les distances. Mais la maison brûle. Ensuite, la maison brûle, il faut des décennies pour mettre tout ça en place.
Pas sur le stockage, je pense.
Laissez-moi finir. Oui. Ensuite, vous avez des options qui sont sur reporter le transport vers des modes peu émetteurs ou pas émetteurs.
Vous croyez plus au changement de nos modes de vie et de nos comportements qu'à des solutions technologiques qui, d'une manière ou d'une autre, capteraient le carbone que nous émettons?
En fait, ce qu'on sait, je vous disais, l'objectif, si on veut stabiliser le changement climatique, c'est d'atteindre zéro émission nette de CO2. Pour ça, on ne peut espérer l'atteindre que si les émissions sont réduites, que les émissions résiduelles qui restent sont faibles dans tous les secteurs et qu'elles sont contrebalancées par un petit peu d'émissions négatives, ce dont vous parlez. Mais on ne peut pas imaginer atteindre ce zéro émission nette si on ne réduit pas très fortement les émissions dans tous les secteurs. Et c'est là qu'on a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui.
Par exemple. Alors, pour stocker.
Attendez, vous l'interrompez. C'est pas gentil.
Excusez-moi.
Terminez juste votre phrase. On en parlera après.
Des solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Isoler les bâtiments, baisser le.
Stopper l'artificialisation des sols.
Exactement.
Enfin, d'accord. Toute une palette de solutions.
Et c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre, tout en, pour ce qui reste au bout, réfléchissant à comment on contrebalance ce qui reste au bout.
Alors, on va y revenir et on va parler des arbres après, mais d'abord on va parler de quelque chose qui concerne pas mal de gens, réduire la consommation de viande.
Oui, changer de régime.
Même Fabien Roussel.
Ouais, en tout cas, oui, effectivement,
c'est
en tout cas déjà sur le monde dans le temps.
PC.
Déjà dans ce rapport du 8 août 2019, le GIEC avait relevé que l'alimentation, mais ça on le sait, elle pèse pour environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le système d'alimentation dans son ensemble, qu'il exerce également une pression sur les ressources en eau et en terre. Plus précisément, dans ce rapport, on lisait noir sur blanc que la viande est l'aliment qui a le plus d'effets sur l'environnement. Contrairement à ce qu'on avait beaucoup entendu et lu dans les médias à l'époque, le GIEC n'avait pas du tout appelé et recommandé aux populations de cesser de manger de la viande. Il avait simplement comparé l'impact climatique de différents régimes. Et de fait, quand on regardait le tableau, dans cet ordre-là, les régimes végétaliens, végétariens et flexitariens sont ceux qui ont le moins d'effets négatifs sur le climat. En tout cas, si on reste dans les systèmes de production tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est un état des lieux, donc ce rapport du GIEC d'août 2019. Ce même rapport avait également noté que presque partout dans le monde, et ça on n'entend pas tellement, on consomme de plus en plus de viande, et c'est vrai en particulier en Afrique, puisque l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation prévoit un bond de 200% de la consommation de bœuf et de porc d'ici 2050, 211% pour la volaille Philippe Bilux. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui clairement aux populations, il faut changer clairement de système alimentaire, de mode de consommation? Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on lit dans le dernier rapport du GIEC?
Moi, je ne sais pas s'il faut dire ça sous la forme « il faut » parce que les injonctions ne marchent pas toujours forcément très bien.
Parfois contre-productives.
Mais il faut, effectivement, je pense, déployer toute une palette de, d'idées, d'événements, de livres de cuisine, de restos subventionnés, j'en sais rien quoi.
D'alternatives.
D'alternatives pour montrer que c'est hype, effectivement. Et ce n'est pas forcément le tout ou rien. Ce n'est pas de passer forcément végétalien ou végétarien, ce qui n'est pas forcément simple, même si maintenant, quand même, l'offre globalement se développe et devient plus intéressante. Mais c'est déjà de consommer moins de viande, tout simplement. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui consomment encore de la viande deux fois par jour. En tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre. Et puis dès qu'on essaye d'introduire un menu bio par semaine à la cantine, il y a une espèce de levée de bouclier sur le mode, mais vous savez, il y a des enfants qui ne vont pas manger le soir de la viande chez eux, donc heureusement qu'ils en mangent à la cantine.
Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas tout à fait vrai, et on sait bien qu'en réalité, tout ça, ce sont des effets d'entraînement, ce sont des choses qui permettent d'en parler, etc. Donc oui, c'est sans doute un des très beaux leviers, et effectivement, ce n'est pas qu'une question climatique, c'est une question climatique pour les émissions de méthane et pour la déforestation.
Et la déforestation,
mais c'est aussi la question de la biodiversité, c'est aussi la question de toute la chaîne de fabrication de cette viande industrielle qui n'est pas terrible.
Claude.